vaut mieux comprendre le chemin pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources dans l'oreille aux racines des
directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview.
Alors, bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité a traversé les mers et même les États-Unis pour venir s'installer ici, accueillir M. John Egana. Bonsoir, John.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, ça va bien.
Oui, bon, oui. John, toi, tu habites à Saint-Adrien dans le rang 10.
Le rang 10, oui. Oui.
Ça fait
oui.
Combien d'années?
Oh, 50 ans, on a demeuré là.
50 ans. Donc, si je vois, tu n'es sûrement pas né à Saint-Adrien.
Non.
Tu es né?
Non, non, j'ai venu au monde à une petite île dans la mer d'Irlande, si tu veux appeler des îles de main. Okay. J'ai venu au monde là en 44.
OK.
Puis, bon, six mois plus tard, ma famille est émigrée. Ouais, on est retourné en Allemagne. On était en Angleterre durant la guerre. La guerre est finie. On est retourné en Allemagne. Donc, j'ai grandi en Allemagne de 45 jusqu'à 56. Donc, 12 ans.
OK.
Des parents d'Allemagne. J'étais des parents d'Allemagne. J'ai né en Angleterre avec des parents allemands qui étaient là illégalement, si tu veux.
Ton père et ta mère étaient allemands?
Oui.
OK. Ton père était américain?
Aussi américain. Américain-allemand.
Et lui allemand?
Oui.
OK,
oui.
Parce qu'il s'était marié,
compliqué
j'imagine.
Un peu, oui, c'est ça. Okay. Lui était né en fait, il était né en Allemagne, puis à 2 ans, sa famille émigrait aux États-Unis.
Ah!
Là, il voyageait partout dans le monde.
Ah, ben oui.
Puis, au bout de... Je pense qu'il perdait son citoyenneté américain parce qu'il ne pouvait plus retourner. Donc, okay. Il s'est trouvé, pour échapper Hitler dans le temps de Deuxième Guerre, il est rendu en Angleterre. Puis là, on était mis dans un camp d'internement, comme on fait avec des Japonais ici au Canada.
Oui, oui, oui.
Donc, je suis né dans un camp comme ça, sur une île de Man.
Ben, voyons donc.
Puis quand la guerre était finie, ben là, ils ne voulaient plus payer tout, payer des frais, des free lunch. Puis on s'est réchappé en Allemagne.
OK.
Au lieu des États-Unis, comme mon père voulait.
OK.
Puis là, j'ai grandi là. Fait
que toute votre famille suivait à ce moment-là, là?
Oui, on était... deux frères et une sœur, on est 4 enfants. Puis
Toi, t'es-tu le plus jeune?
Le plus jeune, oui.
Le plus jeune. Alors, ouais. ça, OK. Fait que là, vous êtes retourné en Allemagne un bout.
Oui.
Puis vous avez vécu là tout le temps?
Oui, on a rendu en Allemagne en 1945. Grandi là, à l'école primaire. Mon père, en fait, était mort, il est décédé en 1947, donc très jeune dans ma vie. J'étais tout juste 3 ans.
Oh,
donc, ça restait ma mère avec 4 enfants.
Oh, en Allemagne,
en
dans
Allemagne,
ces temps-là. Ça ne doit pas être si facile que ça, là, parce qu'après la guerre en Allemagne...
Oui, c'est ça. Mais pour les enfants, on ne voit pas tout ça.
Oh, non.
Je suis des parents qui ont souffert pas mal, mais comme enfant, on joue.
OK. You know, il n'y avait pas de grosse différence là, pour toi, là, pour les...
Bon, ouais,
la pauvreté, je sais
oui,
pas.
Oui, en rétrospect, tu peux... Ouais. Tu vois ces choses-là, mais en fait, tout le monde était pauvre.
Ouais.
Donc, il n'y en a pas de pauvreté parce qu'on est tous pauvres. On était tous pareils, si vous voulez.
Oui, oui, OK.
Il y a peut-être une anecdote trop, quand même, bizarre de cette période-là, juste vite, vite. Il n'y avait pas d'hommes. Parce que les Russes ont pris... Ouais, les Russes ont... Avec la guerre finie, les Allemands étaient des perdants.
Ben oui.
Il y a beaucoup d'Allemands qui étaient chippés vers la Sibérie, des millions.
Mm-hmm.
Puis donc, dans mon voisinage, campagneur quand même, mais un genre de centre aussi réfugié avec, mettons, 50aine d'appartements style.
Hein?
Puis c'est toutes des femmes avec des enfants. Donc, j'ai grandi avec... Non, pas d'hommes, pas en tout. Des hommes, il est revenu de la guerre en 52, mettons, à peu près, ouais. Avec une brode et un trou ici, etc. Puis là, des choses changées. Mais avant ça, on a joué, on allait dans les maisons, on pouvait manger à la voisine. Tout le monde était vraiment un meilleur enfant.
C'était un monde de femmes avec
pas d'autorité, les enfants. Pas d'autorité, puis on pouvait jouer. Responsabilité. Okay. Vis-à-vis de la situation, oui, on était quand même cool, okay. Mais on était libre, oui.
Puis là, tu as fait ton primaire, là? Ou...
Oui, je faisais primaire, là, puis... oui, puis une bande de conservatoire. En tout cas, puis rendu en cinquième année, à peu près, tu sais.
Ouais.
Puis en 56, là, en Allemagne.
Puis après, vous avez...
Là, juste pour dire, mon père, quand il mourait, il disait, « Ben, j'ai une femme, tu vas aller en Amérique. » Donc, après son décès, ma mère a essayé pour aller aux États-Unis, mais c'est difficile, une mère avec quatre enfants. Mais c'est pas un médecin, c'est pas un ingénieur.
Surtout, vous étiez des Allemands, vous étiez peut-être pas si bien reçus aux États-Unis.
C'est pas si pire. On était parrainés un peu comme des bold people de Vietnam.
Oui, oui.
On était parrainés par une église à Cincinnati, Ohio, épiscopale. On était leur famille. Donc, on est arrivé en 56. Par avion, on est venu...
Aux États-Unis, comme ça.
Aux États-Unis, à Cincinnati, par
avion. Là, vous étiez les trois enfants, tu disais?
On était quatre.
Quatre, plus la maman. C'est vous ça. Êtes arrivé aux États-Unis à Cincinnati 56. En 56.
C'est ça.
Puis là, saviez-vous la langue?
Non, oui, mes frères, ils étaient plus vieux. Donc, ils ont vécu à Île-de-Mer, en Angleterre, jusqu'à 9 ans. Ils sont 9 ans plus vieux que moi. Donc, moi, je parlais aucune langue. Ma langue maternelle, en fait, c'est vraiment allemand.
Ouais. Ouais.
Mais pour eux, c'est vraiment anglais.
OK.
Donc, tout le monde, quand on a déménagé les États-Unis pour m'aider, tout le monde switchait en anglais.
Okay.
Donc, tout le monde restait en anglais à la maison.
Parfait.
L'allemand était rayé. Donc, j'ai appris assez vite, 3 mois. Puis, contrairement à le français.
Là, ta mère était seule, là, si je comprends bien. Ton père t'a décédé.
Ouais,
de quelle façon vous avez survécu? Elle faisait quoi comme métier?
Quand on a immigré, elle était comme 600 piastres dans sa poche, puis deux violons, puis quatre enfants. Ça, c'est classique immigré des années-là. On ne voit pas ça aujourd'hui.
Vous aviez, vous connaissiez personne là-bas, sauf la consécration.
L'église, nos parrainés, ils trouvent des appartements, ils trouvent une job pour ma mère aussi.
Ah oui?
Et donc, elle et ma mère étaient une violoniste, si tu veux. Okay. De concert, puis donner des cours de violon et tout ça. Il faisait sa vie avec ça.
OK.
Puis là, les États-Unis, c'était un peu difficile. Il devenait un travail social pour aider des autres immigrés comme elle-même. Donc, elle est très douée à ça. Puis, donc, il faisait ça pour le reste de ses jours.
Fait que là, toi, t'as fini tes études primaires aux États-Unis ou c'était réglé, ça?
Ouais, kind of.
Okay.
En Allemagne, j'ai été jusqu'au cinquième, puis j'ai resté pris, j'ai fait deuxième, cinquième. J'étais dans deuxième fois, puis quand ma mère disait « Hey, voulez-vous aller aux États-Unis? Levez vos mains si vous ne voulez pas aller, mais c'est démocratique chez nous.
» Ah, oui.
Donc, on a tous levé les mains. Puis pour moi, j'étais comme... J'étais en train de coller la deuxième fois mon cinquième année. C'était pas le moment à partir. Mais les États-Unis, ils m'ont mis dans le sixième tout de suite. Donc, c'était une amélioration.
Puis comment que ça se passait?
J'étais dans une... Comme beaucoup d'immigrés, j'étais dans, mettons, à Montréal, comme à Saint-Henri, des quartiers pauvres. Donc, j'ai grandi. Mon autre appartement était ça.
Ouais.
Donc, j'étais entre des gens du sud, du Kentucky, des hillbillies, si tu veux, un voisinage hillbilly. Puis, au nord de moi, c'était un voisinage noir, un ghetto noir.
Okay.
Puis, j'étais dans un bloc neutre. Donc, mon premier école, c'est dans une école noire. J'étais shippé à l'école. J'étais le seul blanc dans l'école. Puis, ça... moins drôle les premières journées, habitué des blancs noirs. Je ne savais pas que j'étais blanc. Non? Je ne savais
c'est
pas
que j'étais
allemand non plus. C'est on rencontre juste en rétrospect.
Ben, ouais, c'est
anyway,
ça
se passait bien. Puis, t'es accepté. Puis, au secondaire après.
Oui, puis ils vous accompagnent. Comment que vous étiez accueilli là-bas, vu que vous étiez des Allemands, en théorie, vous étiez des ennemis, en tout cas jusqu'en 45, as-tu senti quelque chose là-dessus, ou tes frères peut-être plus vieux?
L'intimidation? Dans le public, non. Tu n'as jamais eu une négativité face à l'Allemagne, ou chose comme ça.
Okay.
Non.
C'est
un peu plus difficile quand j'allais à l'école secondaire, qui était comme 70% juifs. Puis là, j'ai appris comme un peu, c'est... Bon, je savais pas, j'étais le fils de Hitler ou Eichmann ou quoi. Donc, c'était des petites histoires qui promenaient. Puis je me souviens, j'ai sorti avec une belle fille, puis elle était juive, puis moi, aucune différence pour moi, je ne savais même pas si c'était juif, jamais. Donc, mais j'étais obligé de rencontrer elle comme trois blocs plus loin de la maison, parce qu'il peut sortir avec moi, il aurait été mal vu. Tes parents étaient très frais, parce qu'eux ont vécu peut-être en Auschwitz, aux différents camps de concentration. Donc ça, c'était vivant. Mais moi, j'étais une jeune, donc protégée à 12 ans, tu n'es pas capable, mais tu te rends compte qu'il y en a quelque chose comme un marque de Caïn, si tu veux, ici, un marque sur toi, parce que tu es en Allemagne. J'ai saisi ça dans l'école secondaire, puis j'ai pris la leçon de vivre avec ça.
Tu étais low profile.
Gérer ça.
Tu étais low profile.
Ouais, c'est
là,
ça. Mais j'ai un accent allemand, j'ai encore un accent ailleurs, mais.
OK.
Autre sorte
d'accent. Fait que là, tu as fait ton high school, j'imagine.
Ouais,
c'est ça.
C'était l'école secondaire là.
Là-bas, à Cincinnati, c'est ça?
Oui.
Ça, c'est ton nord, hein?
Cincinnati, Ohio, c'est pas loin de Chicago, c'est sud de là, dans le Midwest. C'est plus là.
OK, parfait. Puis là, tu fais ton high school là. Par la suite,
j'allais à l'université là aussi, dans Cincinnati, puis j'ai fait un bac en économie.
Ah oui,
puis presque un bac en sciences politiques aussi.
Ah oui, quand même, oui.
Puis de là, j'ai fait 4 ans là, anecdotes des études.
Mais là, on dit souvent que les études, ça coûte cher aux États-Unis. Ta mère était capable de pourvoyer à tout ça,
dans
les
temps, études. C'était pas si cher que ça, Alain. Non, on a travaillé des étés. J'ai réparé des toasters, fait des forklifts dans des entrepôts. Tous les étés, on travaillait pour payer pour les études. Okay. Non, les études étaient 400-500 peut-être par année, chose comme ça. Puis j'ai resté chez nous. C'est ça.
Puis tes frères aussi ont été
à
l'université.
Oui. Ils passaient par le militaire. Puis dans le temps, le militaire, quand tu sortais du militaire, ils étaient payés tes études. Donc, eux, ils rentraient dans l'armée américaine. Un an après, ils sont venus aux États-Unis. Ils étaient réchappés en Europe. Dans l'uniforme américain. Puis, ils ont fait des études aussi, comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Okay. Puis les États-Unis, le mérite... si tu as des bonnes notes à l'université, au-dessus de 90, tu roules sur des bourses.
OK.
Donc, tes premiers 2 ans, tu es moyenne, mettons. Puis les dernières, j'ai saisi cet aspect-là. Puis les dernières 2 ans à l'université, j'ai roulé de 90 et plus. Alors, j'ai fait payer pour aller à l'école.
OK. Fait que là, tu as fait ton bac en économie, tu dis.
Oui.
Là, à cet endroit-là.
Oui.
OK. Puis par la suite, tu as travaillé dans ce domaine-là?
Moi, j'étais plus intéressé dans sciences politiques, en fait, d'un côté de... C'est dans le temps de libération des pays en Afrique, tout ça. C'est la libération des années 60. Donc, j'étais plus axé vers la diplomatie et cause internationale. Donc,
on est dans quelles
60,
années?
J'ai fini à high school en 63.
Fait que là, c'est le Vietnam et tout ça.
J'étais dans le draft.
Vous étiez là-dedans, là. Fait que c'est sûr qu'au niveau politique, ça devait grouiller.
Oui, c'était la conscription. Moi, j'ai été comme appelé pour aller dans l'armée.
C'est vrai?
Deux différentes fois. Puis j'ai échoué mes examens. Je m'arrangeais pour échouer des examens, pour ne pas aller à Vietnam, pour faire tuer des gens, parce que je suis quand même pacifiste. Après avoir... après la guerre et tout ça, vous voyez, de destruction et tout ça. Donc, c'était pas mon...
T'as été exempté, t'as réussi à t'exempter de ça. Faisant échouer des tests et...
Oui, la première fois, c'est surtout avec asthme. J'ai eu des attaques asthmatiques. Puis l'armée, pas acceptable. Donc, je sortais de là,
Mon Dieu, t'étais quand même chanceux.
Puis, j'étais étudiante aussi dans l'université. J'ai des bonnes notes, ils ne prennent pas. Donc, il prend des pauvres, il prend des mauvaises notes, puis il prend des ouvriers, mais il prend des élites. En tout cas, m'excuse, mais c'est le genre d'élitisme. Partout dans le monde, est comme ça un peu. Là.
OK. C'est fait que là, tu t'es
sauvé. Donc, on pensait d'une manière ou d'autre.
Fait qu'au niveau, il y avait de l'ébullition là, aux États-Unis dans ces temps-là. Oui. Là, vous étiez...
Les droits civils avec des Noirs.
La
guerre de Vietnam. La liberté d'expression dans les universités, en même temps qu'on en Europe avec la Sorbonne. Donc, j'étais un peu dans tout ça. J'ai parti vers... Après l'université, j'ai allé à l'Université de Californie, Berkeley, dans les études asiatiques. Et là, j'arrivais là en 67.
Excuse-moi, les études asiatiques, c'est quoi?
Au lieu des experts en Chine, j'ai fait le Japon, Corée, Chine, tout et tout ça, philosophie, histoire, political science. C'était
Berkeley,
genre pour une maîtrise, pour aller pour une maîtrise. Donc, j'arrivais là... c'est le Comment t'es allé? L'été d'amour, de Summer of Love, en 77. Ben, moi, j'ai rêvé là, mais complètement innocent. Je ne sais pas, c'était quoi, rien. Donc, j'ai rêvé là, en école assez hot, puis qui était très revendicateur. Il y a des révolutions anti-guerre, des civil rights, puis on a marché presque toutes les semaines avec 20 000 personnes ici, puis là.
C'était en ébullition, là, c'était
un peu comme Forrest Gump, tu as vu le film Forrest Gump? C'est pas mal comme Forrest Gump.
T'étais là-dedans, là.
T'es tombé dedans par accident, comme tout ça. En rétrospect, ça semble comme un classique, mais en fait, c'est ça.
C'est incroyable, ça devait être au niveau des idées. Et ça devait être incroyable, mais en même temps, difficile, parce qu'il y avait la guerre, puis vous manifestiez toujours pour vos droits, là, finalement. Parce que
on a marché, on a aussi arrêté des bateaux qui partaient pas. C'était une gang qui partait dans des radeaux de rubber boats, des petits radeaux, pour arrêter des immenses cruisers avec des soldats dessus, puis nous renverser. Puis là, le monde est revenu en nage. C'était beaucoup de monde.
Fait que là, c'était ta période universitaire.
67, 68.
OK.
Puis là, après un an presque à Berkeley, c'était trop. C'était comme révolution, psychédélique, Grateful Dead, Jimi Hendrix, DuPont, LSD. LSD était légal encore dans le temps. Tout ça, puis étudier le chinois un matin, assis à apprendre la chinoise. Puis tout ça, puis en même temps, c'était trop. Donc, j'ai lâché, j'ai retourné à Cincinnati. Donc, j'ai pas fini mon degré. fini mon degré à Berkeley. C'était assez. Un an, c'était full vie. Puis presque fin de monde. Le monde va finir, apocalypse, pas loin.
Oui, c'est tout ça. C'est très, très, très intense.
Parce que West Coast, c'est la fin de monde. Tu peux juste retourner.
Oui, c'est ça. Alors,
j'ai retourné.
J'ai
retourné à Cincinnati. Je m'ai inscrit à la même université parce que je ne voulais pas travailler.
Okay.
Dans le sens comme 9 à 5. Je n'étais pas prêt pour ça.
Okay.
Donc, je retourne à les études, puis j'ai allé en sciences politiques, dans le doctorat en sciences politiques.
Okay.
Parce que c'était une manière de faire payer. Donc, c'était un genre de job. Tu deviens professionnel un peu. Puis, pas nécessairement. J'étais pas un intellectuel, plus que je voulais étudier ou j'ai adoré étudier. Pas en tout, j'étais indiscipliné, j'ai étudié pas en tout, j'ai fait de la même, mais j'ai eu des bonnes notes.
OK.
Puis, donc, grâce à ça, c'est mes pays, moi-même, comme ça.
Tu travaillais dans ce domaine-là après?
C'est ça. Donc, j'étais, comment tu dis ça? Pas associé, pas pour chargé de cours, j'ai eu un job. Quand j'ai retourné à Cincinnati, tu viens de Berkeley, on va te donner un job de chargé de cours de sciences politiques au gouvernement américain. Donc, j'ai enseigné au gouvernement américain des lois, de constitution, etc.
Combien de temps?
J'ai fait ça pour 2 ans.
OK.
Puis, je me suis marié entre-temps, puis un court temps, avec Dantan, puis c'est plus là. C'était marié un an et demi.
OK.
Puis, une anecdote, quand même, le Vietnam était encore là. Dans ce moment-là, quand j'ai enseigné, ils disaient des gens qui ont des notes en bas de 70, ils peuvent être conscrits.
Ouais.
Donc, 70 et plus, pas de conscription. Donc, quand j'ai déchargé le cours, j'étais centaines d'élèves à 3 différentes classes, ils disent, je vous garantis, vous avez 70 et plus. Donc, c'était bon, mais la deuxième année, je devenais tellement populaire, tu sais, parce que tout le monde gravitait vers ça. Puis là, j'ai essayé de monter jusqu'à B, jusqu'à 80. J'ai donné les meilleures notes, juste 80, mais il faut tout travailler. Donc, c'était comme une dynamique intéressante comme professeur puis et élève. Mais évidemment, j'ai perdu mon job après ça.
Okay.
Ça se fait pas.
Ah, OK. trop intrigue.
Ah, après ça, bye!
OK. Qu'est-ce que ça fait après?
Ça, c'était en 69, j'imagine. Ouais.
Après, tu t'es retrouvé
là, où? J'ai déménagé à Boston pour changer de vie. Puis j'ai travaillé dans une banque comme un économiste, comme un sous-économiste, si vous voulez, dans une banque. J'ai fait un an de ça. Puis après ça, un an dans une école libre. Non, 2 ans dans une école libre. J'étais trésorier puis prof de whatever. C'était un genre de, comme Summer Hill, vous avez entendu ça, un genre d'école libre.
Ouais.
C'est ça, secondaire. Puis je fais ça pas 2 ans, puis je reste dans une commune en même temps.
Parce que là, il y avait des communes. Là.
Aussi.
Il y en avait partout. Là.
C'est ça.
OK.
Ah, ouais, c'est un peu ça.
OK, là, tu es aux États-Unis, mais qu'est-ce qui t'a emmené à Saint-Adrien?
Oui, c'est la question là, je fais de l'or, mais dans la commune, il faut les voyager comme Jack Kerouac.
Ouais,
On va aller en West Coast, j'ai déjà été, mais je vais aller encore. Je vais aller avec un beau Volkswagen. Puis, je suis à Washington State, puis c'est pluvé. Puis, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas vivre tant plus. Je vais aller à Colorado. Ça, toujours du soleil, ouais. Des montagnes, c'est bon. Bon, j'arrive à Colorado, puis 2 mois plus tard, j'ai rencontré l'amour de ma vie, quoi.
Ben, Lisette donc, Enfouche, qui était là, elle.
Il est venu par hasard pour aller à Californie, puis il était un ami qui restait dans la même maison à Boulder, Colorado,
ouais.
Sur la route. Donc, elle a arrêté là, puis.
Mais c'était pas une Américaine, là, on s'entend.
Non, elle était une Québécoise, okay. M'excuse. Mais oui,
toi, tu connaissais-tu le Québec? Tu savais-tu c'était
non,
où?
Non, je savais même pas c'était au Québec. Pareil, c'est gênant quand même. Pour quelqu'un qui enseigne un gouvernement américain, histoire américaine, tu sais. Non, c'est rien. Vraiment rien. Mais je pense que c'était l'antécédent français, mais je pense que c'est Canada.
C'est
sûrement anglais.
C'est
il y en a peut-être des souches françaises.
Fait que là, tu rencontres.
Donc, j'ai arrêté elle, puis on restait 3-4 mois à l'États-Unis, à Boulder. Elle a pris anglais, elle ne parlait pas anglais non plus.
Ouais.
Moi, je ne parlais pas français. Donc, pas.
La communication.
On était très occupés. Oui, c'était très bien.
T'as plus physique.
Oui. Ben, c'est une bonne manière de faire des racines.
Oui. Puis là, tu t'en
on arrive à Québec en 60.
Fait que là, elle dit, hey, moi, je reste au Québec.
Il faut que je retourne à Québec. Okay. Mon père est malade. Okay. Je pense que c'était ça.
OK.
Puis en décembre, je pense. Puis avant. Mais ça va en novembre, puis préparer des vêtements pour moi pour Québec. J'étais suspicieux. Acheter une kit pour faire une jacket en duvet, you know, épidémique pour Mont Everest, là.
Ouais.
C'est un bon. Oh boy, you know. J'étais pas d'idée comme ça peut être fort demain. Donc, je suis arrivé avec mon nouvelle jacket pour l'Arctique.
Okay.
Aucune idée.
Aucune
en
idée.
Décembre, puis il était comme moins 15, moins 20.
Oh.
C'était un gros hiver, là. C'est le premier hiver.
Non.
Mais c'est parfait.
Okay.
J'ai pas souffert de
puis vous êtes arrivé.
Donc, on est arrivé en décembre 72.
72 ici.
À Québec, à Montréal.
À Montréal aussi.
Parce que ma femme est montréalaise.
Ouais. OK.
Donc, on est resté là, un mois ici, un mois là, Val-David. Puis à un moment donné, Lisette a rencontré quelqu'un dans une party. Puis il est venu de Saint-Adrien.
Ah, ben.
Puis il disait, quand tu es dans le coin, viens nous voir. Mais c'est ça, je pense en février. On a fait un petit tour de Québec, puis il m'a montré la ville de Québec, puis on est arrivé ici. Hein. Puis je me souviens de la lumière quand on descendait la côte derrière le nord.
Ouais.
C'était super, c'était lumineux comme vallée. Des, wow! C'est des Laurentides, on était juste, c'était plus ombreux ici, entouré. Puis là, on est arrivé ici.
Puis vous êtes installé là?
Pas tout de suite. Bah, on restait un peu dans une commune.
Ouais.
Le monsieur, il restait en commune. Puis moi, je ne tentais pas vraiment rester dans une commune encore parce que. D'entendre le monde partager des femmes, des hommes, tout ça, moi, je ne voulais pas partager.
Okay.
Donc, c'est ça.
Okay.
On est venu faire sirop d'érable avec eux en mars. Puis, on est trouvé une ferme à vente, juste au côté de la vallée. On est allé voir ça. Puis, en mois de juin, on a acheté cette autre ferme-là,
okay.
Une ferme de 300 acres, avec grange, tout ça. J'ai aucune idée de. Une ferme, je.
Gentleman farmer, là.
Non, même pas gentleman farmer. Moi, je voulais juste un arc ou deux pour mettre en maison, bâtir un dôme géodésique, de Whole Earth Catalogue, juste pour que tu connais ces périodes-là. Puis, les rêves, c'est fait, mais on a l'électricité moi-même avec des chutes. Puis, c'est ça, mon vision était très frico, tu sais.
Oui, oui.
Puis, en réalité, c'est j'ai une grange. Qu'est-ce que je fais avec tout ça, là?
Oui, de quelle façon que vous avez survécu?
Ben, on a acheté un canard, un oie, un mouton, un chien, une vache. Puis, on commençait tranquillement comme ça. Puis là, des chèvres sont venus, puis pas trop loin après, on commençait des chèvres laitières. Je n'ai jamais vu une chèvre dans ma vie. Puis on commençait à faire des business de chèvres laitières en 73, je pense.
Vendre des laits, vendre des chèvres.
Oui, j'ai réglé mes statuts citoyens aussi. J'ai, j'ai retourné aux États-Unis. J'ai réémigré en 74 officiellement. Puis venu ici avec ma mère. J'étais Le gars m'a demandé combien d'argent était dans ma poche. J'ai dit 50 piastres, mais un camion full d'outils.
C'est bon. Fait que là, vous avez fait combien de temps l'agriculture, entre guillemets?
Oui, un peu bio dans le sens qu'on est d'alternatif, dans le sens qu'on va faire quelque chose correct. On va faire pas des chimiques, mais on ne savait rien plus que ça. Donc, c'est bien beau comme idée. Oui,
parce qu'il n'y avait pas d'internet.
Alors, les chèvres, on commence à tirer des chèvres des matins, des soirs, puis sortir des bébés, apprendre, apprendre vraiment de vie de cultivateur un peu plus. Pas 6 heures de matin, puis, mais c'est plus comme 9 heures de matin, puis 9 heures de soir. Puis on vendait notre propre produit. On a appris à faire du marketing nous-mêmes dans une... C'était tout nouveau à Québec, t'entends, tu sais.
OK, parce que là, vous avez tombé dans des chèvres plus spécialisées à un moment donné.
Oui, on était les premiers à avoir des chèvres laitières sans savoir. Forrest Gump syndrome encore. On est venu ici, on fait le même nouveau avec 2-3 autres mondes. Ah. On s'est organisé pour faire un genre de collectif. Puis ça, c'est fini dans une fromagerie. C'était une fromagerie Tournevent. Oui. Et ça, c'était fait par un leader. C'était pas moi qui ai démarré ça. C'est René Marceau. Puis,
j'aimerais savoir le regard que les gens avaient du village par rapport à vous autres, mettons, à cette époque-là. Est-ce que vous étiez bien reçus? Comment que ça se passait, les échanges?
Tu sais, je parlais pas beaucoup de français au moment, mais je me souviens, on allait au centre communautaire ici pour un bingo. Puis une des choses, c'était super, je ne comprenais rien, bingo, rien non plus. Mais le monde dansait ça des tables, je te jure. Et buvait, et c'était vraiment fun comme monde, vraiment, tu sais, non? Puis eux étaient quand même suspicieux vis-à-vis de la commune. Moi, je n'étais pas dans la commune, mais c'était parti de... J'étais nouveau arrivé, pareil, you know?
Ouais.
Je sais, les locaux, ils passaient dans les rangs espérant voir des filles, se baigner tout nu dans le rang 7. Puis tous ces éléments-là, free sex, c'est intéressé des gens de promener un peu.
Ouais.
Mais ça, c'est juste marginaux. La plupart, c'était vraiment super gentil. Puis peut-être une drôle d'anecdote. Moi, je pense que j'étais peut-être mieux reçu que les Québécoises qui sont venues de Montréal, qui étaient installées à Saint-Adrien. Moi... Ils m'ont accepté comme différente.
Ouais, parce que, tu sais,
mais eux et les autres, ils parlaient français comme eux, mais ils étaient bizarres.
Ouais, je comprends.
Donc, j'ai toujours été...
Accepté plus facilement que...
Comme immigré, adapté. J'étais habitué à adapter à d'autres choses. Oui. Donc, j'étais plus gentil, parce que c'est une bonne règle.
Ben oui, toi, tu t'es adapté toute ta vie d'une place à l'autre. Fait que pour toi, c'était assez facile de s'adapter ici.
Tu souris beaucoup, puis c'est assez des mots. Des premiers mots, du tabarnak, allez, puis tu sais, puis ça t'est fait tout de suite. Tu es en train d'apprendre le français. C'est ça, puis il dit, mais c'est cool, tu cool, toi, tu sais.
Ah, c'est bien. OK, c'est bien. Fait que là, tu as eu les chèvres longtemps, puis après, il y a eu comme une autre carrière qui s'est développée pour toi là, un peu plus tard.
Oui.
T'as plus
dans... je vais dire, vers 78, on était tannés de faire du train avec du lait et tout ça. On a été des chèvres angora. On est allé à Texas. J'ai importé les premiers chèvres angora au Québec, dans le temps, avec un groupe, c'est un autre groupe. Puis les aides, ils voulaient plus, au lieu de faire de lait, ils voulaient tisser, puis ils faisaient tout. Donc, moi, je cherchais d'autres domaines, retour à mes contacts dans les chèvres laitières. Puis je joindre éventuellement le groupe de fromagerie Tournevent à Chesterville, pas loin d'ici, avec mon vieux ami René Marceau, qui était comme déjà démarré cette usine-là avec 8 employés. Mais il n'y en a pas de marché à Québec.
Oui, c'était du fromage de chèvre, c'était assez innovateur quand même à cette époque-là, là.
Mais on était dans les chèvres, on parlait chèvres, terroir, respecter des gens qui, on sait, c'est dur d'élever des chèvres et de travailler dans ça, comme horticulture, c'est dur. Puis donc, on voulait faire quelque chose de bien, c'est collectif, puis en même temps, faire du fromage, puis avoir un jeu de ça. Donc, on vend de nos chèvres dans cet homme-là, puis lui aussi ailleurs, puis on s'est formé une coopérative. Des producteurs qui fournissent du lait à l'usine, la petite usine. Tu pouvais faire tout.
Oui.
Dans le début, on faisait tout. Lait.
Fait que là, vous fournissiez le lait à cette fromagerie-là, puis lui, il fabriquait du fromage.
C'est ça, on faisait du fromage, les primaires, c'est ça.
OK.
Mais moi, Puis dans le but, on est vendu en place encore cheese près Saint-Sauveur-Anjou, Saint-Hyacinthe. C'était des Français étaient intéressés de voir de lait de chèvre, faire des premières formats de chèvre.
Oui, parce qu'au Québec, Amérique
du Nord,
au Amérique. Ouais, en Amérique.
Même les États-Unis, c'était vraiment, c'était une compagnie encore. Puis on faisait un private label, un ticket privé avec eux. Puis là, ça, tranquillement, c'est venu à nous. Puis moi, j'ai embarqué un peu plus tard que le début. Puis donc, l'exportation. Donc, j'ai dit, bon, cherche-t-on le marché pour voir qu'est-ce qui se passe à dire. Donc, j'ai fait un voyage à New York, Boston, en tour pour voir possibilités. Puis quand j'ai revenu, j'ai dit, oui, il y en a des possibilités. Peut-être c'est difficile, mais c'est des possibilités. Puis voilà. Puis je pensais être consultant de quelque sorte. J'ai dit, non, ben, nous, on ne sait pas quoi faire avec ton information. Ben, pourquoi tu fais pas de... Pourquoi tu continues pas?
Ah.
Il dit, je ne tentais pas être vendeur, moi, c'est représentante. Je pensais, non, voilà, c'est ça, rien. Alors, j'ai pensé, donc, je suis devenu représentant de fromage extérieur de Québec, parce que lui faisait Québec, il dit, faut-tu aller ailleurs? Donc, toi, je suis la vendeur ailleurs.
Aux États-Unis particulièrement. Oui,
puis aussi le reste du Canada. Donc, Toronto jusqu'au BC, puis j'ai essayé Halifax, tout ça. Puis, évidemment, New York, c'est pas loin, 16 heures, donc, des États-Unis. Puis j'ai développé ces marchés-là tranquillement. Mon premier shipment, c'était comme 400 litres de cheddar de chèvre, de fameux chèvre noir. Mm-hmm. J'ai mis dans mon station wagon avec un sleeping bag dessus. J'ai passé la douane, tout ça, illégalement. Je ne savais pas comment ça marchait. Puis j'ai livré mes premiers fromages à New Jersey. You know? Ça, c'est mon premier livraison réfrigéré avec un sleeping bag.
Puis à la fin, c'était combien, mettons?
Ça commence à la fin, on a pris 2 millions, c'est ça. On a rendu des Costco américains, des Whole Food Stores et tout ça. Oh, puis on est dans les avions, on a fait des airlines, des Swiss Air, First Class, on vendait White House, Disneyland.
Été rendu là, tu étais beaucoup aux États-Unis, puis tu vendais, tu faisais des shows un peu partout. Là.
C'est ça.
Mon Dieu, OK. Puis ça a bien fonctionné.
Tomber dans le bain. You know, c'est une chanceuse de tenir ça des fromages artisans en même temps. Il y en a un autre dans les années 2000, un autre essor, mais là, c'est de la première essor. Donc, on a monté avec cette vague-là. Puis, même temps d'exportation aussi, le dollar était moins valable comme aujourd'hui, 70 sous à peu près. Donc, on était avantageux côté-là.
Puis tu travaillais de chez toi?
Oui, chez nous.
Tout le temps chez toi?
Puis tous les mois, j'ai parti quelque part, à peu près, deux mois. Puis trois, quatre jours, mettons à New York, trois, quatre jours à Chicago.
Ah, c'est la belle vie, quand même?
Oui, c'était super. Moi, j'ai adoré ça.
Ben oui.
Puis quand on allait des belles places, Lisette est venue avec moi, mettons, ils ont pu rester un couple de jours.
Tu as fait ça combien de temps, là?
20 ans.
20 ans, quand même?
Oui.
OK, puis là, à un moment donné, tu as arrêté, tu étais...
Ouais. C'est peut-être détail, mais en 2005, on a vendu Tournevente. On est devenu trop gros pour être petit, puis trop petit pour être gros. On était trop visible vis-à-vis des gros. Puis on savait que des grands poissons mangent petits poissons. Puis notre moment est arrivé. Puis on a faut changer d'usine parce que des structures étaient trop vieux, etc. C'est un grand investissement où se faire bouffer par des gros dans notre coin pour distribuer. À Québec.
Ben oui, bien sûr.
Donc, c'était cool. On a décidé, on a vendu en 2005. On était deux usines. On a vendu une usine de fromage d'Amafro, qui aujourd'hui, ça n'existe plus non plus, c'est Agropur. Puis l'autre usine laitier, dans laquelle on faisait fromage dans une. Puis l'autre était high-tech, on faisait du lait de chèvre en bouteille. Ouais. Peut-être, Vicky va se... Puis du yogourt, on faisait du beurre, puis on faisait des nutraceutiques. Donc, on commence à aller dans le pharmaceutique. Un espèce de. Pas de base de lactose, mais de fromage de chèvre.
Tu as fini ta carrière avec eux.
Oui, j'étais vendu avec la machine à Drama. Okay. J'ai travaillé. Okay. Puis en 2010, j'ai arrêté.
C'est là que tu as pris ta retraite.
Oui.
Puis là, présentement, tu vis sur ta terre, puis tu travailles le bois, et c'est mollo. Ben, c'est mollo.
Oui, la terre est restée pareille. On est revenu à la terre grâce à. Tout ce temps-là, c'est ma femme et mes enfants, ils prennent soin. J'étais là, mais j'étais pas là. C'était parce que c'était assez gros comme job de gérer beaucoup de clients comme ça.
Okay. Bon, ben, John, c'est malheureusement tout le temps.
Mais on est très bien. On est pas pressé. Mais j'ai encore très bien. Ben, puis je suis content d'être ici.
Tu vas rester avec nous parce qu'après la pause, ça va être les questions embêtantes.
Ah, OK. Il y en a un verre de vin avec ça, comme tout le monde en parle.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mathieu Crête. Je suis un des fondateurs de la compagnie La Feuille Verte. La Feuille Verte a vraiment comme mission de démocratiser le chanvre et de l'emmener dans plusieurs produits de tous les jours. Le chanvre, c'est une plante qui est merveilleuse, qui a plusieurs utilités. Notre focus, c'est surtout les cosmétiques. Avec la compagnie Chanvre, on veut offrir des cosmétiques naturels, sains pour la famille. Puis, on veut s'assurer que ça soit sain aussi pour la nature. Alors, le chanvre répond à tous ces besoins-là. Il y a plusieurs propriétés intéressantes au niveau de la peau. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi des gâteries pour les animaux. On a des suppléments pour les animaux avec la marque Crux. Et on fabrique aussi une boisson à base de chanvre qui s'appelle le kombucha. Tout ça fait en sorte qu'on essaie vraiment d'emmener de plus en plus de produits sur le marché avec cette merveilleuse plante qui est la première plante cultivée par l'homme. La compagnie a été fondée officiellement en 2004, mais c'est vraiment en 2017 que Danny Lefebvre, moi et trois autres investisseurs ont décidé de racheter l'entreprise et de l'emmener à un autre niveau. Avant, c'était une petite entreprise qui avait seulement 2 employés. Maintenant, on a fait l'achat d'une usine qui est l'ancien abattoir, la Colbex. On a une usine de plus de 65 000 pieds carrés. On engage plus de 50 personnes et on est très content de l'expansion. Le but dans le futur, c'est vraiment de focusser surtout sur les cosmétiques. C'est une de nos marques qui fonctionne très bien. On veut l'emmener plus à l'échelle canadienne, puis voire même aussi à l'échelle mondiale. Ça reste toujours un défi avec l'approvisionnement de matières premières, de produits naturels, mais on veut focusser là-dessus. C'est une des raisons aussi pourquoi on a plus de 220 arcs en culture pour cultiver notre propre chanvre puis s'assurer d'avoir une intégration verticale. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter nos sites web. On a le site de la compagnie Max, lafeuilleverte.ca. Pour les cosmétiques, c'est chanvre.co. Et pour les produits animaliers, c'est crux.co. Pour ce qui est du kombucha, je vous invite à la meunerie venir déguster un bon kombucha en merveilleuse compagnie. Je vous remercie. Merci et bonne journée.
Et toujours à l'émission Les Racines des Sources, pendant la pause, notre invité a pigé une question embêtante. Alors, est-ce que tu es prêt, John?
Oui.
Quand la première fois vous vous êtes fait vous voyez?
Une variance, oui. Quand je suis venu à Québec en 72, mettons, cette histoire m'est arrivée en 73, je ne savais pas à quel point c'était comme colonisé, ou l'anglophonie, francophonie, plan d'Abraham, toute l'histoire québécoise qui est en train de prendre forme. J'allais à un bureau poste, je pense que c'était à Wharton, ou à Saint-Camille, puis j'étais des cheveux longs, pas trop long, j'étais pas capable de pousser des cheveux trop longs. Anyway, mais jusqu'à là, avec moustache, tout ça, évidemment, you know, pas en local. Puis quand je rentrais au bureau poste, je voulais juste avoir un thème, puis il m'est adressé comme sir. Tu sais, puis il dit, là, j'ai gardé ça, ça c'est comme vous voyez, mais c'est encore plus. Donc j'ai dit, sir, c'est quoi ça? Il était tout à fait sérieux, c'est comme humble parce que j'ai anglophone pour ma division, puis tu dis sir, les anglophones. C'est mon histoire.
Bien, merci beaucoup, John, de ta participation. Ça a été vraiment super intéressant. Et on se revoit bientôt. Et avant de terminer, je vais faire une pensée de à l'inconscient qui dit « L'âge n'a pas d'importance, sauf si vous êtes un fromage. » Alors, merci beaucoup. Merci au public. Merci à l'équipe. Merci à John. Puis on se revoit bientôt.
Un plaisir. Merci. Ça a bien été. Merci, messieurs.